Bonjour, nous avons ici en nos murs Joseph Rouzel. Alors Joseph Rouzel est connu en tant qu'ancien éducateur spécialisé, également psychanalyste, formateur et en plus créateur de l'Institut européen psychanalyse et travail social, le PsychaSoc. Alors qu'est-ce que c'est que le PsychaSoc ?
Alors, PsychaSoc, bon, qui est l'abréviation d'ailleurs de psychanalyse et travail social, qu'on a gardé de morceaux des mots, c'est un institut que j'ai créé en 2000. Je peux dire un peu pourquoi, parce que j'ai travaillé longtemps comme formateur dans des écoles de formation, notamment à l'Institut Régional du Travail Social de Montpellier. Voilà. Et puis je l'ai quitté parce que les centres de formation sont en train de devenir des espèces d'usines à gaz et que je ne m'y retrouvais pas. J'ai une conception de la formation qui est assez proche finalement des artisans, à savoir que les anciens qui se sont coltinés le boulot essayent de transmettre aux plus jeunes, un peu comme des artisans maçons ou charpentiers. Il y a eu ça pendant très longtemps, et puis depuis 90 à peu près, il y a eu une réforme de la formation, ce qui fait que on est parti sur des modèles universitaires, alors que ça me paraît très problématique. C'est-à-dire que enseigner un métier, c'est une chose, et enseigner des savoirs comme le fait l'université, c'est très très différent. Et on a eu une espèce de renversement comme ça, où au lieu de partir de la pratique, puisque c'est des formations qui se font en alternance, les éducateurs spécialisés étaient des pionniers dans ce genre de formation, puisque sur 30 mois de formation, vous avez 15 mois sur le terrain et 15 mois en centre de formation, avec l'idée que les personnes rencontrent la réalité du boulot sur le terrain et qu'ensuite on a des espaces pour élaborer. Voilà. Et puis dans les années 90, on a mis tout ça cul par-dessus tête. On a commencé par enseigner des savoirs plombés, à savoir du côté de la psychologie, du droit, enfin des choses très intéressantes, mais où on a perdu un petit peu le fil de la pratique. Voilà, donc j'ai quitté cette forme de formation qui m'allait pas. J'ai créé cet institut dans lequel on reçoit en formation continue des petits groupes. On n'a jamais de groupe supérieur à 15 personnes et on travaille systématiquement à partir de ce que les travailleurs sociaux amènent du terrain, des situations, des embrouilles, des difficultés, voilà. Et puis c'est un institut qui porte un éclairage sur le travail social à partir de la psychanalyse. Voilà, donc ça fait 7 ans, je travaille avec une vingtaine de collègues, et donc soit on organise des stages sur Montpellier, soit je me déplace, comme actuellement je suis à Vaucresson, qui est le centre de formation de protection judiciaire de la jeunesse.
Alors qu'est-ce que pour vous le travail social finalement ?
Alors qu'est-ce que c'est que le travail social ? D'abord, c'est quelque chose d'assez ancien, puisque on voit ça déjà un peu chez les Romains et chez les Grecs, on voit un peu des personnes qu'on délègue dans l'assistance, dans le soin, dans l'accompagnement, etc. Je rappelle souvent que le terme éducateur, par exemple, est un terme qui existe à Rome. Éducateur, ça existe. C'est un esclave qui est chargé de prendre les enfants de la famille romaine. Alors, la famille romaine, c'est 200 ou 300 personnes. C'est des familles très, très larges. C'est pas la notion de famille qu'on a aujourd'hui. Et donc, il y a un esclave qui est chargé de prendre les enfants et de les amener jusque dans un lieu qu'on appelle le gymnasium, qui est le lieu de socialisation des citoyens romains. Et vous voyez, le type qui fait la navette entre l'espace familial et l'espace social, finalement, on l'appelle éducateur. Hein, qui veut dire, ex ducere, qui veut dire conduire hors d'eux. Donc c'est un accompagnateur. Moi, je crois que si on tient ce fil-là, on comprend un petit peu que un certain nombre de personnes, ça peut être dans des moments dans leur vie, dans des moments difficiles, ça peut être aussi pour certaines personnes toute leur vie. Pensez à des personnes très handicapées qui auront toujours besoin de soutien, d'accompagnement dans la vie quotidienne. Hein, voilà, donc c'est des accompagnateurs, des passeurs d'humanité d'ailleurs. Hein, je travaillais cet après-midi là, avec des éducateurs qui ont affaire à des jeunes en grande difficulté, on voit bien qu'ils les accompagnent tout doucement pour partir de leurs difficultés, et sans les nier d'ailleurs, et les aider à trouver une place parmi les autres, à peu près acceptable pour eux et pour les autres. Voilà, on pourrait dire que c'est des passeurs. C'est un mot que j'aime bien.
Oui, ça c'est
vrai. Des passeurs de l'entre-deux, des intermédiaires, voilà. Des...
Oui,
ça c'est vous vrai. Va comme définition.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors moi, j'ai vu votre ouvrage qui est paru cette année, qui est appelé « La supervision d'équipe au travail, en travail social », qui est paru chez Duno. Et vous avez abordé le problème très intéressant des dérivés du management à l'américaine et de la sclérose institutionnelle par rapport au travail social. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, ben parce que une des dérives qu'on voit, bon, c'est pas que dans le travail social, on voit ça dans tout l'espace social, une espèce de bureaucratisation de la société, de marchandisation de la société, et ce qui accompagne ces formes marchandes, c'est le management, à savoir qu'on va tout mettre au carré, organiser, il faut que tout le monde marche au pas, etc. On voit ce que ça donne, y compris dans nos vies quotidiennes, hein, avec un discours complètement sécuritaire, à savoir qu'on a peur de tout, qu'il va falloir tout surveiller, etc. Alors c'est ça, les formes de management qui sont très anciennes. Les discours sur le management, on les trouve au 17e chez Adam Smith. Enfin, il y a comme ça les ancêtres du management, hein, qui montrent que la société marchande doit s'auto-réguler, mais on voit que pour s'auto-réguler, il faut qu'elle soit managée. Voilà. Et ça, c'est en train d'arriver tout doucement du côté du travail social, avec des formes assez dramatiques. Je pense un exemple, par exemple, où pour rendre compte du travail que fait un travailleur social, on lui demande de remplir des grilles. Par exemple, un enfant autiste, est-ce qu'il s'est mangé tout seul ? Est-ce qu'il a ses lacets, etc. Bon, c'est quelque chose de complètement catastrophique, parce que sous ces formes-là, soi-disant scientifiques, on pourrait croire que c'est intéressant, on perd complètement de vue le fait qu'on a affaire à une personne. On s'en fout que les mômes leur lacets tout seul, c'est pas ça qui est important. Voilà, donc alors, j'ai l'impression que les formes de management sont en train de scléroser justement nos sociétés. Et peut-être que les travailleurs sociaux, et d'où la difficulté de ces métiers aujourd'hui, sont peut-être aux avant-postes d'une forme de résistance par rapport à cela, en rappelant toujours que ce qui compte, c'est l'humain. Ce qui compte, c'est l'humain. Ce n'est pas les formes d'organisation hyper sophistiquées qu'on est en train de mettre en place et qui petit à petit déshumanisent d'ailleurs, y compris le lien social, les relations. Les relations entre les humains, voilà. Je trouve que c'est une véritable question sociale et en même temps, on voit que les travailleurs sociaux sont au cœur de ces questions-là dans leur quotidien. Je pense à un type qui a été un grand éducateur, bon, qui est mort il y a une dizaine d'années maintenant, qui s'appelait Fernand Deligny, quelqu'un qui s'est occupé à la fin de sa carrière d'enfants autistes d'une façon très, très gonflée en disant « ces enfants ne sont pas malades, donc il ne faut pas chercher à les soigner ». Par contre, il faut créer des lieux de sécurité dans lesquels ils font ce qu'ils ont à faire. Il a même été jusqu'au bout, puisqu'il a refusé le prix de journée de la sécurité sociale. Enfin, il y avait quand même une logique. Hein. Et je me rappelle que Dolto, à l'époque, avait écrit un bouquin, Le cas Dominique, et elle a reversé tous les droits de Ligny pour qu'il puisse continuer ce travail. Hein, donc il y a eu un véritable engagement et une mobilisation autour de ce travail. Et Deligny, à très peu de temps de mourir, a reçu un journaliste de l'Humanité qui a déboulé, vous imaginez, dans les Cévennes, en pleine garrigue. Et alors le type est arrivé, il a regardé ce qui se passait, les mômes qui couraient avec les chefs, tout ça, il n'a rien compris du tout. Il dit, je comprends pas ce que vous faites, je comprends rien du tout. Et Deligny a dit, mais ici on fabrique de l'humain. Et il ajoute, vous savez, c'est beaucoup plus difficile que d'organiser une expédition au pôle Nord avec des chiens de traîneau. Alors je crois que la question, elle est là, la question de quels sont les gardiens de l'humain. Je crois que quelque part, les travailleurs sociaux vont avoir cette question-là dans un moment où on est en train de réduire l'état de marchandises, y compris l'être humain. On est dans un monde quand même inquiétant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, mais on en arrive à... Je ne sais pas si je vais arriver à traduire ma pensée. Le fait qu'on remplisse des grilles, c'est une simplification d'un travail. On évite l'écriture, on évite la rédaction.
Oui, tout à fait.
Et on évite finalement cette espèce d'explication où le type doit faire une synthèse de ce qu'il a vu, l'antithèse, etc. De faire des plans. Et on arrive à des gens qui sont, que ce soit les travailleurs sociaux ou que ce soit les autres.
Hein, c'est vrai un peu partout.
C'est un peu partout et on arrive à des espèces de machines.
On coche des cases, on coche des grilles. J'ai dit à des éducateurs il n'y a pas longtemps, j'ai dit, vous êtes grillés avec vos grilles. C'est-à-dire que vous bousillez l'essentiel, quoi.
Parce qu'ils ne se remettent pas en question, ils ne voient plus... Enfin, je parle d'eux, mais oui, c'est vrai que ça se retrouve ailleurs. À partir du moment où on remplit des cases, on ne se remet plus en question et on ne cherche plus d'autres voies pour arriver à des résultats.
C'est pour ça que la question de la supervision est quelque chose d'intéressant. Alors bon, c'est peut-être là, je rentre peut-être dans du jargon de métier, mais la supervision, ce sont ces espaces dans lesquels les travailleurs sociaux vont se retrouver en petits groupes avec un superviseur et vont travailler sur une situation qui les embarrasse. Et le premier travail qu'on fait, c'est un récit. Autrement dit, on ne se met pas à cocher des cas, c'est un récit. On a un peu perdu d'ailleurs l'art du récit. J'ai rencontré Michel Serres il n'y a pas longtemps qui disait on a perdu l'art du grand récit. Hein, les papys autour de la cheminée qui racontaient les histoires d'antan, des fictions évidemment, toutes ces mythologies qu'on se transmet. Alors on retrouve dans la supervision cet art du récit. C'est-à-dire de prendre quelque chose qui s'est passé il y a 15 jours, il y a un mois, qu'on a en travers, auquel on comprend rien, et dans le mouvement de la parole, de laisser se dérouler comme ça, ce qui est une forme d'ailleurs d'évaluation, de rendre compte, mais qui consiste pas à cocher des cases, pas du tout.
Alors j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure à propos, c'est un problème dont vous parlez, et plusieurs psychanalystes sont d'accord avec vous. Vous abordez le problème de la communication entre le travailleur social et celui qui l'aide. Ce que j'ai du mal à appeler usager, moi, j'avoue.
Ouais, et c'est pas un beau mot. Hein.
Et je voulais savoir, donc, le travailleur social doit être à l'écoute, doit communiquer avec celui qui est en face de lui, mais est-il capable de le faire ?
On essaye de former les gens pour qu'ils puissent le faire. C'est même, à mon avis, l'essentiel de la formation. Bon, après, il y a des savoirs dont on a besoin, la psychologie, l'économie, la sociologie, bon, qui sont importants, mais ce savoir de la relation, pour ce que les psychanalystes appellent le transfert, c'est-à-dire la capacité qu'on a de se lier les uns avec les autres, pour moi, il est fondamental. Je dirais même que quelqu'un qui ne saurait pas faire ça peut difficilement faire ce genre de métier. Alors, c'est peut-être pas une histoire de communication, c'est quand même plus complexe que ça, quoi. Surtout quand vous avez affaire, quand même pas mal de travailleurs sociaux travaillent avec des gens très très démunis qui ne sont pas forcément dans la parole. Moi j'ai travaillé avec des personnes très handicapées, ils ne vont pas vous causer, quoi. Et on sait en même temps que c'est, s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas une accroche humaine suffisamment forte, ça ne tient pas, même avec une personne, grabataire. Et alors là, bon, faut inventer des formes, je pense à un collègue qui était directeur, qui était un fêlé d'écriture, parce que vous parliez d'écriture tout à l'heure, et il est arrivé dans l'institution, il a dit « j'aimerais que tout le monde écrive, mais pas des choses savantes, etc., mais ce qui vous arrive à longueur de journée, que ce soit les éducateurs, mais aussi le psychiatre, et puis le type qui conduit le bus, la femme de ménage, écrivez vos impressions, hein, vous rencontrez les malades, bon, ben, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous les croisez ?» Sachant que c'était des personnes complètement démunies, qui ne bougeaient pas, des grabataires. Et on s'est aperçu d'une chose, dans cette institution, on reprenait après ce qui avait été écrit, et il y avait quelque chose qui était de notoriété publique, c'est qu'une dame, une malade, tombait de son lit toutes les nuits. Donc voilà, on s'étonnait plus. Et en relisant les fiches, on s'est aperçu qu'elle tombait toutes les nuits de son lit, sauf une nuit par semaine, lorsqu'il y avait telle éducatrice qui était de garde. Et ça, c'est apparu grâce à l'écriture qui est venue faire révélateur. Oui, alors les modes de communication peuvent être extrêmement subtils. Hein. Là, on s'est dit, il se passe quelque chose, il y a sûrement un lien entre cette personne qui ne bouge pas, mais qui a pourtant une sensibilité, et cette éducatrice. Le lien, il est là, mais on ne le voyait pas sans cette révélation de l'écriture. Voilà. Alors, je prends des cas un peu extrêmes, mais ce que vous soulevez comme question, c'est une des clés, d'ailleurs, de la formation en travail social, d'apprendre à aller assez loin dans la relation à l'autre, même dans une forme d'intimité où l'outil de travail des travailleurs sociaux, c'est eux-mêmes, quoi. C'est leur corps, c'est leur sensibilité, leurs émotions, et c'est ça qui va se travailler. Avec tout ce que... C'est un terme de psychanalyse, mais qui n'est pas réservé aux psychanalystes, avec tout ce qui se transfère. Lorsque deux êtres humains se rencontrent, il se passe des choses qui se déplacent d'un corps à un autre. Ça fait des choses, voilà. Bon.
Alors, il y avait quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressée dans votre livre, c'est quand vous abordez les théories et les travaux cliniques de... Alors, je ne sais pas son nom véritablement, c'est
Auguste Eichhorn.
Auguste Eichhorn. Qui ont commencé après 1918, donc après la guerre de 14-18. Et des pratiques cliniques qui sont excessivement moderne, non seulement à l'époque, mais je dirais même maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Je peux en dire deux mots, d'autant plus que Eichhorn est en train de revenir un peu sur la scène. C'est un de nos papis, hein, pour les éducateurs. Et j'ai republié un livre, qui est le texte de ses conférences qu'il a fait en 1925 à Vienne, il y a maintenant 3-4 ans. Et puis il vient de sortir la semaine dernière des inédits d'Eichhorn. On voit qu'il y a un travail gigantesque, quoi. Qui est Eichhorn, c'est quelqu'un qui vient de la grande bourgeoisie viennoise et qui a d'abord fait des études de mécanique. Ça, c'est son père qui l'avait poussé à ça. Ça n'intéressait pas du tout. Ensuite, il est devenu instituteur. Puis, il était copain avec Anna Freud, la dernière fille de Freud. Et assez tôt, il s'est intéressé aux jeunes qu'on appellerait aujourd'hui délinquants. Asociaux, etc. Et la municipalité de Vienne lui a demandé de prendre la direction d'un centre de rééducation, si on veut. Il y avait à l'époque 900 jeunes, donc c'est quelque chose de gigantesque. Et donc il s'est mis à organiser ce qui était un véritable camp à partir des principes de la psychanalyse, à savoir que ce qui compte, c'est la question du sujet. Alors prenons un exemple, si vous voulez, pour vous montrer comment il travaillait. Il reçoit un gamin dont on lui dit que... Un gamin qui est passé par la justice, et on lui dit « c'est un voleur », etc. Bon, c'est à ce titre-là qu'on va le placer. Et alors, ce que fait Eichhorn, c'est qu'il n'étiquette pas du tout le gamin. C'est pas le voleur qui reçoit, c'est ce gamin-là. Et en fait, il va jouer dessus en lui disant « Écoute, je te donne la responsabilité de la caisse. » Alors la caisse qui servait, il y a une coopérative qui servait à acheter des affaires pour les enfants, du tabac, etc. Et alors le gamin dit « Mais vous êtes fou, je suis un voleur. Vous me donnez la caisse, vous savez bien que je vais tout piquer quand même. Bon. » Et il lui donne la caisse. Évidemment, ça manque pas. Le môme, 3-4 semaines plus tard, ben, il a tout piqué dans la caisse, il n'y a plus rien. Et puis, quelques temps plus tard, Eichhorn est en train de ranger sa bibliothèque, le gamin lui donne un coup de main, et puis de but en blanc, comme ça, il lui dit « Alors, t'as combien dans la caisse ?» Et à ce moment-là, le môme, il s'effondre, il dit « Mais je vous l'avais dit, j'ai plus rien, j'ai tout volé, quoi. Mais il y avait combien dans la caisse ?» « Oh, je sais pas, il y avait 600 couronnes, un truc comme ça. » Et à ce moment-là, Eichhorn sort son porte-monnaie, lui donne les 600 couronnes et lui dit « Oui, mais attention, c'est un prêt, c'est mon argent, donc je te le prête, il faudra que tu le rendes. » Et on voit le déplacement que produit Eichhorn. Il fait confiance au gamin et le gamin va se déplacer de la casquette qu'il portait. Voleur, c'est une casquette. Hein, alors que les autres lui avaient collé sur le dos du fait de ses vols, mais qui lui allait bien. Et il y a un moment, du fait qu'Eichhorn le prenne à un autre endroit, ça va avoir des effets éducatifs et thérapeutiques. Alors ça, c'est très novateur. Je crois qu'on peut tout à fait s'en inspirer.
Même maintenant.
Même, d'autant plus maintenant où on est en train d'étiqueter des gamins de racailles, de sauvageons. Ça, c'était pour le ministre d'avant. Enfin, on a eu le droit à toutes les versions. Hein. Il y a des jeunes qu'on veut nettoyer au Karcher. Enfin, vous voyez un peu, on est dans un vocabulaire, mais terrifiant. Hein. Alors, comment on va se désintoxiquer de ce vocabulaire qui vient stigmatiser des jeunes, qui sont d'abord des jeunes qui cherchent, comme tout le monde, à vivre dans la société, une société qui est de plus en plus dure. Et, bon, voilà, je crois que une des fonctions principales des travailleurs sociaux, c'est de dénommer, je ne sais pas si ça se dit, de sortir de ces stigmatisations, d'avoir en face de soi un sujet quel qu'il soit, qui est en difficulté, qui peut être dans les embrouilles, qui peut être passé par la justice, etc. Mais c'est d'abord un sujet qu'on a à faire. Je pense que si on tient ce bout-là, à mon avis, on tient le bon bout. C'est ce que j'essaie d'enseigner aux éducateurs, moi, en tout cas.
Est-ce que vous êtes optimiste sur le devenir du travail social ?
J'allais dire oui et non. Oui, si il y a suffisamment de mobilisation de la part des travailleurs sociaux pour non seulement pour se bagarrer contre ces formes régressives qu'on nommait tout à l'heure management, mais aussi pour se bagarrer pour faire savoir ce qu'ils font. Ça, c'est une des difficultés qu'on a. Hein. La plupart des travailleurs sociaux écrivent peu ou écrivent pas, même pour certains. Or, la seule façon de se faire savoir ce qu'on fait, ce sont des métiers qui sont pas visibles. Hein. Mm-hmm. Si vous allez dans un centre spécialisé, vous allez être un peu déçu. Vous allez voir des éducateurs qui jouent au baby-foot avec des jeunes. ou ils prennent le café, ils vont au cinéma. On va dire, mais enfin, c'est pas possible, on paye des gens pour ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? N'importe qui peut faire ça. Donc, c'est pas de l'ordre de la visibilité. Il faut qu'il y ait un travail d'élaboration dans l'écriture pour faire apparaître, pour rendre visible ce qui n'est pas visible. C'est une des difficultés. Donc, je pense que si on avance de ce côté-là, je pense que j'ai certains espoirs. Par contre, vous savez que c'est des métiers qui sont laminés les uns après les autres, dans lesquels, petit à petit, on tire vers le bas. Actuellement, j'ai un collègue directeur qui embauche des étudiants pour faire les nuits à la place des éducateurs. Et puis, on va aller de plus en plus vers des choses comme ça. Vous voyez, je pose les choses de façon un peu dialectique en disant, oui, on peut peut-être avancer en même temps, c'est difficile. Parce que la tendance de ceux qui nous gouvernent, des ministères, c'est aujourd'hui d'instrumentaliser tous les travailleurs sociaux, hein, d'en faire des agents presque, des agents de sécurité pour certains, des agents de surveillance, des agents de contrôle,
etc. Parce que c'est une méconnaissance finalement du travail fait.
C'est une méconnaissance. C'est pour ça que je ne mets pas uniquement la faute du côté des décideurs. Je pense qu'il y a une responsabilité des travailleurs sociaux à ne pas faire savoir ce qu'ils font. Quitte à taper du poing sur la table, à montrer qu'il y a un enjeu qui est non seulement clinique pour les gens qui sont sur le terrain, mais il y a un enjeu politique. Hein, je l'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est de l'humain et de la survie de l'humain dans nos sociétés? Bon, c'est vraiment, je pense que c'est la grande question. Hein. Bon, voilà, donc je sais pas si on peut dire à moitié optimiste, à moitié pessimiste. Je pense qu'on peut avancer. Le site que j'ai créé, moi, me donne l'espoir parce que je reçois des textes un peu partout. Il y a des personnes qui n'oseraient peut-être pas envoyer une revue spécialisée et puis qui savent que là, bon, ça ne va pas être jugé d'abord. On n'est pas là pour ça. Et puis, on a des formes de compte-rendu du travail tout à fait passionnant. Notamment un retour, je disais tout à l'heure, de la mise en récit. Alors ça, c'est quelque chose... Moi, j'adore quand on me raconte des histoires. Et je me dis, peut-être par ce biais-là, on peut arriver à faire comprendre ce que fait un travailleur social. En tout cas, de façon un peu plus vivante qu'en faisant des grilles qu'on va cocher...
Moi, je vais vous poser une question. Pourquoi ne voit-on pas plus de travailleurs sociaux dans les collèges ou les lycées?
Ah, alors ça faut demander au ministère. D'autant plus que l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est qu'on a eu en 1909, on a l'invention des classes de perfectionnement. Et puis grâce à ce duo d'enfer de deux psychosociologues qui s'appellent Binet et Simon, on invente un instrument de mesure qui existe encore aujourd'hui, qui permet de mesurer le QI, le quotient intellectuel. Et comme à chaque fois qu'on se met à mesurer, on crée une moyenne, puis il y en a qui sont au-dessous et d'autres qui sont au-dessus. Ça, c'est les lois de la mesure. Hein. C'est pour ça que quand on se met à mesurer, il faut se demander un petit peu ce qu'on fabrique. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que... Alors, je ne sais plus exactement les normes, mais on est entre 70, donc tout ce qui est au-dessous de 70, c'est problématique. Et ce qui est au-dessus de 120, on ne s'en occupe pas à l'époque. On commence à voir que des mômes qui ont des formes d'intelligence au-dessus de 120, 180, etc., ont du mal à s'adapter à l'école pour les mêmes raisons. Alors, à cette époque-là, on dit, alors, ceux qui sont au-dessous de 70, ceux-là, on ne peut pas s'en occuper. L'éducation normale, et donc il va falloir créer un corps de métier d'éducateurs spéciaux. Hein? Donc, en fait, on peut dire que le métier d'éducateur, notamment, est né aux marges de l'exclusion. Ce sont des mômes qu'on a exclus de l'école. Alors, vous voyez, le problème, c'est que maintenant, on dit qu'il faut les réintégrer. Seulement, comment voulez-vous réintégrer des mômes qu'on a stigmatisés du côté du handicap, de l'autisme, de la délinquance, etc. Je pense que c'est très, très problématique. Alors, on pourrait imaginer, mais ce n'est pas tellement la pente qu'on prend, on pourrait imaginer qu'il y ait une association d'instituteurs, par exemple, dans une classe avec des éducateurs dont c'est le métier, qui savent...
Le problème. Autrefois, on avait comment ça s'appelle, des instituteurs qui étaient devenus des professeurs, qui passaient dans un statut de professeur, comme on avait les PEJC. Oui. Et tout cela a disparu, finalement, pour arriver à avoir des gens qui ont des... Bon, je suis universitaire, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on va trop loin. Je ne vois pas ce que viennent faire des agrégés avec des gamins de 6 ans, de 6e. Il y a un problème où il faudrait finalement avoir ce corps d'enseignants qui existait autrefois, qui faisait finalement la balance entre l'école primaire et le collège.
qui faisait de l'enseignement et de l'éducation.
Et qui faisait également l'éducation.
C'est parce qu'on a viré les mômes qu'on a des éducateurs spécialisés. Bon, alors, je ne dis pas que c'est un métier, je suis d'accord. On aurait pu imaginer qu'en 1909, au lieu de virer une partie de d'enfants qui étaient en difficulté, on se creuse la tête pour les intégrer à ce moment-là. C'est-à-dire que ces corps de métier, bon, c'est pas le chemin qu'on a pris, mais du coup, c'est toujours très très compliqué hein, d'exclure. Après, on veut réintégrer et généralement, ça marche pas très bien, quoi.
Oui, faudrait peut-être réfléchir un peu plus.
Oui, moi je pense qu'il faut réfléchir un peu plus. Et puis imaginer des formes d'association et de collaboration entre les éducateurs culturels que sont les instituts, les profs et les éducateurs spécialisés. Bon, il y a tout un tas de choses, je pense, à inventer. Bon,
Oui, qui est des liens beaucoup plus élastiques et beaucoup plus faciles à créer, effectivement.
Ouais. Alors, ça se fait ponctuellement. Moi, j'ai des collègues qui accompagnent des enfants autistes, par exemple, dans des classes. Ça, c'est tout à fait intéressant. Bon, on ne peut pas demander à un instit qui a une vingtaine de mômes à s'occuper. Et par contre, le fait qu'il y ait une présence comme ça, très attentive auprès d'un enfant, ça permet tout doucement de trouver sa place. Ça permet aux autres enfants d'accepter qu'il y ait... Bon, des enfants peut-être pas tout à fait comme eux, qui font pas des choses tout à fait comme eux, voilà, bon. Mais il y a du pain sur la planche, comme on dit. Hein.
Oui,
il y a du boulot.
Tout à fait. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère à bientôt.
Oui.